vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Super Mario Party Jamboree. On aura ensuite un point sur les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. On parlera du news jeux vidéo avec le jeu Exodus. Ensuite, on aura une news technologie avec la puce Sycamore de Google qui surpasse désormais les superordinateurs les plus rapides. Et on finira l'émission avec les quelques petites sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test de Super Mario Party Jamboree. Donc c'est un jeu vidéo de type party game qui est jouable en solo et en multijoueur. Il a été développé par NDCube et édité par Nintendo. Il est mondialement sorti le 17 octobre 2024, donc hier sur Nintendo Switch. 18e épisode paru dans la série Mario Party, il se positionne en tant que suite de Super Mario Party. Après Mario Party Superstars, Super Mario Party Jamboree est un opus annoncé comme le plus grand Mario Party jamais créé. Plus de 110 mini-jeux, 22 personnages jouables, un immense archipel de 7 plateaux composés de plateaux inédits et d'anciens issus de Mario Party 1 et 2, ainsi que de nombreux modes, dont un mode inédit, le Koopathlon. Grâce à cette fonctionnalité, ce sont jusqu'à 20 joueurs qui pourront s'affronter en ligne. Le jeu est classé PEGI 3 et il obtient une note de 16 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 82 sur 100 sur Metacritic. Donc depuis quelques années, la saga Mario Party recule pour mieux sauter. Après une compilation intitulée Top 100 sortie en 2017, un volet inédit est arrivé en 2021, avant qu'un nouveau best-of ne débarque avec Superstars. Aujourd'hui, Jamboree veut rassembler petits et grands en tordant les règles du jeu. Donc soyez avertis, les situations vont se retourner comme des dés. Donc c'est reparti pour un tour en compagnie de Mario et de ses amis. Après 17 épisodes qui ont vu les joueurs s'affronter sur un millier d'épreuves au cours de parties endiablées, le jeu de loi loufoque de Nintendo revient avec une formule de base qui n'a a priori pas beaucoup changé. Pas de véhicule étrange à diriger ici, Super Mario Party Jamboree revient aux sources avec des dés à lancer pour progresser sur 7 plateaux en participant à plus de 110 épreuves. Donc oui, c'est largement plus qu'à l'époque de Super Mario Party, dont le contenu jugé léger avait refroidi les puristes. Avec ses 22 héros jouables, dont 2 à débloquer, ses innombrables modes de jeu et ses graphismes plus charmants que jamais, Jamboree affiche d'emblée les ambitions d'un champion. Donc dans ce mode de jeu principal, sobrement intitulé Mario Party, 4 joueurs évoluent dans des mondes variés en avançant de case en case en fonction du résultat de leurs dés. Du côté des environnements, nous retrouvons 5 plateaux inédits, donc l'île Goomba, les bois rieurs de Mega Wiggler, le circuit débridé, les galeries multicolores et la base secrète de Bowser, ainsi que 2 anciens plateaux, le Pays Western et le château arc-en-ciel de Mario. Jeu de loi oblige, ces cases sont importantes et ont une triple influence sur le joueur, puisqu'elles peuvent lui apporter soit un bonus, soit un malus, en plus de décider du type de mini-jeu à venir à la fin du tour, soit 1 contre 3, 2 contre 2 ou chacun pour soi. Comme à l'accoutumée, le but est de récupérer le plus d'étoiles possible, donc plus que ses concurrents, avant la fin du tour final. Et comme d'habitude, il y a toujours une pelletée d'items à acheter ou à trouver, facilitant l'avancée ou entravant celle des autres. On constate que le tuyau doré qui mène à l'étoile active du terrain est toujours présent, mais ce dernier coûte désormais la somme de 25 pièces. Donc Mario Party propose 2 modes qui modifient légèrement les règles, le mode classique et le mode pro. La difficulté pro est pensée pour celles et ceux qui détestent le hasard et qui veulent pousser les skills au maximum. Ainsi, chaque joueur bénéficie d'un bonus de son choix dès le premier tour, les cases Bowser retirent une étoile, voler une étoile coûte plus cher chez Boo, 50 pièces au lieu de 20, et les mini-jeux basés sur le hasard ou la chance sont retirés des playlists. En outre, il est possible de connaître à l'avance la condition de gain d'étoiles lors du bilan de la partie, ce qui ajoute un peu de stratégie à la manière dont les joueurs se déplacent dans les mondes. Le mode classique, de son côté, propose une expérience inspirée de celle des anciens Mario Party, avec des vols d'étoiles peu onéreux et des coups du sort multiples. Donner le choix entre une expérience plus détendue ou au contraire plus compétitive est bienvenue, bien qu'utiliser des dés pour se déplacer fasse logiquement appel au facteur chance. La grosse nouveauté de cet épisode, c'est bien évidemment le camarade de Jamboree. À tout moment, en mode Mario Party, un protagoniste issu de l'univers du célèbre plombier peut débarquer sur une case. Le rejoindre lance une épreuve dédiée, donc jeu de plateforme à la Mario 64 pour Yoshi, jeu de rythme à la Donkey Kong pour Donkey Kong, etc. Le premier joueur qui arrive sur la case de l'allié reçoit un avantage facilitant la victoire, sans pour autant l'assurer. Ces mini-jeux spéciaux sont variés, plus longs que les autres et réservent des défis un peu plus ardus que la moyenne. Il faut dire qu'en cas de victoire, les récompenses sont particulièrement alléchantes, avec un avantage passif, donc comme le vol de pièces, la copie d'un item, des ajouts de points au lancer de dés, etc. Et surtout le pouvoir de tout doubler. Ainsi, accompagné d'un acolyte, on gagne deux fois plus de bonus, on récupère deux fois plus d'items et surtout, on récupère deux fois plus d'étoiles. Attention cependant, on subit également deux fois plus de malus en cas de coup du sort. Enfin, si un adversaire passe sur la case du joueur muni d'un allié, il lui pique son compagnon. Cela encourage donc des coups bas au moins aussi violents que les retournements de situation que cette nouveauté peut engendrer. Donc que l'on choisisse le mode classique ou pro, tout est fait pour que nos amis réunis autour de la console se transforment en ennemis sans foi ni loi au fil des tours. Il y a toujours des objets capables de bouleverser l'avancée tels que le sifflet, le tuyau doré, les pièges ou encore le dé téléporteur. En outre, Boo vole inlassablement les pièces ainsi que les étoiles, tandis que lorsque les derniers tours arrivent, les règles du plateau évoluent afin de provoquer toujours plus de péripéties. Si vous ajoutez à cela des objets à acheter dans les boutiques donnant accès à des raccourcis, des cases points d'exclamation qui chamboulent l'arène ainsi que des duels où l'on peut miser gros, vous comprendrez aisément qu'une fois encore, Mario Party causera cris, railleries et supplications devant l'écran. Bien que les options soient conséquentes, histoire de coller à un maximum de goût, on aurait aimé avoir plus de choix dans la manière de personnaliser le terrain de jeu et surtout ses cases. Précision importante, à l'instar de son prédécesseur, le soft est jouable en mode portable et sauvegarde la partie à la volée via différents slots. Donc les plateaux, sujet ô combien sensible auprès des fans historiques de Mario Party, tentent de concilier tout le monde en restant suffisamment petit afin d'encourager les remontadas spectaculaires, tout en étant suffisamment grand pour avoir des zones vraiment distinctes, des cases aux effets multiples et de nombreux carrefours. Si on apprécie l'effort de Nintendo d'essayer de contenter tout le monde en alliant stratégie et rythme, le résultat n'est pas sans défaut. Il y a encore des situations où avec de la malchance, on se met à tourner en rond sans opportunité de progression, notamment dans le pays western où le train nous pousse dans le fossé quand il est en marche. En multipliant les événements à activer, les dés bonus et les dénivelés, Super Mario Jamboree crée parfois des tours interminables avec un joueur qui utilise son bonus, passe par la boutique, choisit entre deux routes, active un événement, dit bonjour à Boo et termine sur une cache chance. En solo, il n'est d'ailleurs pas possible d'accélérer le temps lors des tours des opposants, ce qui est regrettable même si une option à cocher en début de partie octroie la possibilité d'accélérer les déplacements. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test, on va s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu Super Mario Party Jamboree. Donc c'est Rainbow Galleria 1, composé par Shigenobu Okawa et Yuta Yamaguchi, et on revient juste après. We'll be right back. Donc c'était Rainbow Galleria 1, composé par Shigenobu Okawa et Yuta Yamaguchi, musique extraite de l'OST du jeu Super Mario Party Jamboree. On continue donc avec la deuxième partie de ce test. Donc les épreuves de Super Mario Party Jamboree sont un mix d'anciens mini-jeux et d'expériences inédites. La playlist réserve ce qu'il faut de jeux d'adresse, d'action, de rythme, mais aussi d'observation et de mémoire pour assurer des joutes animées en local comme en ligne. Les règles sont simples et ne nécessitent pas de passer trop de temps sur les pages de tutoriel précédant les sessions. Donc à l'image des derniers volets, il est par ailleurs possible de s'entraîner directement sur l'écran des règles. La sélection a le bon goût de proposer peu d'expériences de pur hasard, ainsi qu'un nombre très limité de jeux de sport. Alors oui, clé en main n'est pas incroyable avec ses portes à ouvrir au pif, la course à dos de Yoshi dispose d'une caméra automatique pas toujours optimale, et Boule Surprise est toujours aussi mouet, mais dans l'ensemble, la sélection est aussi variée qu'amusante. Contrairement à l'épisode sorti en 2018 sur l'hybride de Nintendo, la plupart des mini-jeux ne tiennent pas compte de la reconnaissance de mouvement. À l'exception d'une quinzaine d'épreuves où il est nécessaire de prendre son Joy-Con dans ses mains pour le bouger dans tous les sens, le reste se manie de manière classique. Il est bon de noter que ces mini-jeux sont désactivables afin de ne jamais tomber dessus. Les fans de motion gaming se retrouveront dans la cuisine en cadence, des jeux de rythme en cuisine, dans l'usine de Todd, des puzzle games avec création de chemin pour une boule, et dans les aventures aériennes, une sorte de crazy taxi à 3 km/h dans les airs. A l'instar des jeux de la salle de Todd par le passé, ces expériences sont certes amusantes, mais elles font office de bonus rapidement joués et rapidement mis de côté. Nintendo a même pensé aux amateurs d'aventures 100% solo avec le mode quête et entraide qui donne l'opportunité de revisiter librement les nouveaux plateaux à la recherche de missions à accomplir qui se révèlent être des mini-jeux à réussir avec des surprises dont je tairai la nature. Donc ce n'est pas indispensable bien sûr, mais pas désagréable non plus. En adéquation avec son époque, Super Mario Party Jamboree sert tout un tas de modes jouables aussi bien en solo qu'en multi-local ou en ligne. Le mode Mario Party est jouable jusqu'à 4 en local ou online, la Marina des mini-jeux est jouable en local comme en ligne, Quête et Entraide est jouable 100% en solo, Cuisine en cadence, l'usine de Todd et les aventures aériennes sont forgées pour le jeu en local avec du motion gaming. La firme japonaise a même pensé à inclure des défis quotidiens, histoire de pousser les joueurs à revenir régulièrement. Donc faisant preuve d'une grande générosité, la firme japonaise inclut 2 nouvelles rubriques à son attirail, pensées cette fois-ci pour le jeu en ligne, mais jouable en solo contre l'intelligence artificielle. Dans la brigade anti-Bowser, jusqu'à 8 joueurs doivent tenter de vaincre Bowser en chargeant des canons grâce à des bombes trouvées dans les arènes. Malgré la présence de mini-jeux en coop pour obtenir des objets utiles, ce mode un peu brouillon ne laisse pas de souvenirs impérissables. Le coupathlon néanmoins est autrement plus réussi. Jouable jusqu'à 20 joueurs en ligne, il demande de collecter un maximum de pièces au fil de mini-jeux spéciaux, mini-jeux qui se complexifient tour après tour. Remporter des pièces fait progresser le joueur en temps réel sur un plateau dédié, et il est possible d'envoyer des malus aux concurrents. À la fin de chaque manche, tous les participants se retrouvent dans une épreuve contre Bowser où le but est simple, survivre afin de ne pas perdre trop de place. Ce Battle Royale sauce Mario Party n'est en aucun cas un game changer, la faute à des épreuves exclusives finalement peu nombreuses, mais il livre encore une nouvelle manière d'explorer ce Super Mario Party Jamboree, décidément plein à craquer de choses fandardes à faire et d'éléments à débloquer. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a le mode pro et les nouveautés du mode Mario Party qui sont les bienvenues, une tonne de modes de jeu en solo, en multilocal ou en ligne. On a un jeu toujours aussi joli, fun et fluide, plus de 110 mini-jeux à la fois variés et amusants, le mode coupathlon qui est une proposition intéressante, et pour les points faibles, on a plusieurs modes qui ont un intérêt discutable, comme la brigade anti-Bowser, l'usine de Todd aussi par exemple, trop d'événements qui tuent l'événement en mode Mario Party, et il manque encore quelques options de personnalisation des plateaux. Voilà, du coup pour terminer ce test, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre musique extraite de l'OST du jeu Super Mario Party Jamboree. Donc c'est Western Land 1, composé par Shigenobu Okawa et Yuta Yamaguchi, et on revient juste après. We'll be right back. Donc c'était Westernland 1, composé par Shigenobu Okawa et Yuta Yamaguchi, une musique extraite de l'OST du jeu Super Mario Party Jamboree. On va faire une petite pause publicité et on viendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie, et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5, toutes plateformes confondues, eh bien c'est le même top que la semaine dernière, à peu de choses près. Donc on a en 5ème place EA Sports FC25 sur Xbox Series, un jeu de Electronic Arts. En 4ème place, c'est EA Sports FC25 sur Nintendo Switch. En 3ème place, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch. Donc un jeu de Nintendo. En 2ème place, c'est EA Sports FC25 sur PS4. Et en 1ère place, EA Sports FC25 sur PS5. Le top 3 pour la Nintendo Switch, on a en 5ème place Mario Kart 8 Deluxe. En 2ème place, c'est EA Sports FC25. Et en 1ère place, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Pour la PS5, on a en 3ème place Until Dawn, donc la version 2024. En 2ème place, c'est Astrobot. Et en 1ère place, EA Sports FC25. Pour la Xbox Series, on a en 3ème place Star Wars Outlaws. En 2ème place, c'est Warhammer 40 000 Space Marine 2. Et en 1ère place, EA Sports FC25. Pour la PS4, on a en 3ème place NBA 2K25. En 2ème place, c'est GTA 5. L'édition Premium, et en 1ère place EA Sports FC25. Pour la Xbox One, on a en 3ème place GTA V l'édition Premium, en 2ème place c'est Hogwarts Legacy, et en 1ère place Red Dead Redemption 2. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en 3ème place AKR l'édition spéciale, en 2ème place Throne and Liberty, et en 1ère place c'est EA Sports FC25. On passe maintenant à la news de jeux vidéo. Donc lors de la cérémonie des Game Awards de 2023, un nouveau jeu de science-fiction a été annoncé, donc il s'agit de Exodus. Réalisé par des vétérans de l'industrie, le RPG avait fait sensation, notamment grâce à la présence de Matthew McConaughey, donc qui jouait dans Interstellar. Et voilà qu'un nouveau trailer vient de sortir pour le plus grand plaisir des fans. Donc imaginez un vaisseau spatial qui vole seul à travers l'espace. C'est le début du trailer sorti le 16 octobre dernier par le studio Archetype Entertainment sur son futur jeu Exodus. Dans cette bande-annonce, à retrouver sur internet, la voix de Matthew McConaughey, connu notamment pour son rôle dans le film culte Interstellar, présente la menace la plus redoutable que les joueurs pourront croiser, les Marayama. Ces créatures prennent leur force dans la peur des gens et sèment la terreur dans les populations de l'espace. Elles ne volent pas uniquement les biens matériels, mais s'attaquent au cerveau, à l'esprit, à la mémoire et aux émotions de leurs victimes. Pour les rares survivants des Marayama, ils décident de ne plus se balader dans l'espace à cause de troubles psychologiques. À quelques jours d'Halloween, ces monstres glacent le sang. On se demanderait presque ce qu'il pourrait arriver de pire comme espèce dans le futur jeu. Grâce à la bande-annonce, on apprend également le nom du personnage incarné par McConaughey, donc il s'agit de Sissy Orlev. Il est réputé pour sa célébrité dans sa colonie de Centauri et pourrait détenir des informations capitales pour le bon déroulé du jeu. Donc Exodus est un monde complexe. L'histoire du jeu se déroule dans un futur très lointain où les hommes ont dû fuir une terre mourante pour tenter de trouver un nouveau foyer dans la galaxie hostile. Ils s'installent finalement dans le cluster Centauri, un ensemble d'habitations qu'ils ont découvert grâce à l'envoi de sondes. Mais certains vaisseaux mettent plus de temps que d'autres. Pour le voyageur interstellaire que l'on incarne, les journées qui s'écoulent sont des décennies pour les autres. Chaque décision et chaque choix auront donc un impact sur plusieurs générations. Cette idée d'intrigue est venue du studio de développement Archetype Entertainment, créé en 2020 par des vétérans de BioWare. James Holland est responsable du projet Exodus. Il est notamment connu pour être le concepteur en chef sur Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights et Dragon Age Origins. Mais c'est aussi le premier réalisateur de Star Wars The Old Republic. Ce n'est donc pas forcément un hasard si le jeu semble déjà plaire aux fans avant même sa sortie. On passe maintenant à la news technologie, donc une nouvelle étape dans la course à l'informatique quantique vient d'être franchie par Google. D'après une étude récente, la puce d'ordinateur quantique Sycamore, développée par Google, serait désormais capable de surpasser les superordinateurs les plus rapides au monde dans des opérations spécifiques. Grâce à une série d'expériences et de tests, les chercheurs de Google Quantum AI ont pu démontrer que cette technologie entre dans une nouvelle phase de développement, ouvrant la voie à des avancées en matière de calcul complexe. Donc les expériences menées sur la puce Sycamore, qui comporte 67 qubits, ont révélé une phase de bruit faible dans laquelle les calculs effectués par l'ordinateur quantique surpassent ceux des superordinateurs classiques. Dans cette phase, le niveau de bruit, c'est-à-dire d'erreur dans les calculs, est suffisamment réduit pour permettre des opérations complexes que les supercalculateurs ne peuvent pas gérer aussi rapidement. L'information quantique repose sur des unités de traitement quantique, ou QPU, Quantum Process Unit, qui utilisent les qubits pour effectuer des calculs de manière parallèle, contrairement aux bits classiques, qui eux travaillent de manière séquentielle. En théorie, plus il y a de qubits dans une QPU, plus la puissance de calcul augmente de manière exponentielle. Cela signifie que des calculs nécessitant des milliers d'années pour un ordinateur classique pourraient être réalisés en quelques secondes par un ordinateur quantique. Cependant, l'un des défis majeurs de l'informatique quantique reste le taux d'erreur élevé. Les qubits sont extrêmement sensibles aux interférences comme les variations de température ou les radiations. Ce bruit important rend nécessaire l'utilisation de techniques avancées de correction d'erreurs qui deviennent de plus en plus compliquées à mesure que le nombre de qubits augmente. Malgré ces obstacles, les chercheurs de Google Quantum AI, dirigés par Alexis Morvan, ont réussi à maintenir une phase de calcul où le bruit est suffisamment faible pour permettre des performances inédites. La découverte de cette phase stable de calcul complexe constitue une avancée majeure dans le domaine de l'informatique quantique. Jusqu'à présent, atteindre la suprématie quantique, c'est-à-dire le point où un ordinateur quantique dépasse définitivement les performances des ordinateurs classiques, semblait hors de portée en raison du bruit excessif généré par les qubits. Pourtant, les résultats obtenus avec la puce Sycamore montrent que cette barrière peut être surmontée, du moins pour des calculs spécifiques. L'expérience menée par Google a été publiée dans la revue Nature, et ses conclusions sont claires. Dans certaines conditions, la puce Sycamore peut réaliser des calculs que même des superordinateurs les plus puissants ne peuvent égaler. L'une des méthodes utilisées pour parvenir à cette conclusion est appelée échantillonnage de circuits aléatoires, ou RCS. Les scientifiques ont délibérément ralenti la propagation des corrélations quantiques ou augmenté le bruit dans les expériences. Ce test, qui consiste à mesurer la fidélité des résultats produits par une grille 2D de qubits supraconducteurs, est considéré comme l'une des références les plus difficiles à réaliser en informatique quantique. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont pu prouver que, dans la phase de bruit faible, Sycamore était capable d'effectuer des calculs hors de portée des superordinateurs classiques. Donc bien que cette avancée représente une étape importante, elle n'élimine pas tous les défis liés à l'informatique quantique. La technologie reste encore bruyante et nécessite des efforts considérables en matière de correction d'erreurs. Les qubits sont tellement sensibles que même de petites perturbations comme un changement de température ou une fluctuation magnétique peuvent entraîner des erreurs dans les calculs. Actuellement, environ 1 qubit sur 100 tombe en panne lors des calculs, un ratio bien supérieur à celui des bits classiques. Pour résoudre ce problème, les chercheurs envisagent plusieurs pistes. L'une d'entre elles consiste à développer des technologies de correction d'erreurs plus performantes, capables de maintenir les qubits dans une phase de bruit faible, même lorsque leur nombre augmente. L'autre option serait de construire des ordinateurs quantiques comprenant des millions de qubits, une tâche qui reste extrêmement complexe à ce jour. En effet, à l'heure actuelle, les machines les plus avancées comptent environ 1000 qubits. Donc malgré ces limites, la découverte d'une phase de bruit faible marque un tournant. Elle montre que les ordinateurs quantiques peuvent, dans des cas spécifiques, surpasser les ordinateurs classiques, même sans correction d'erreurs parfaite. Toutefois, comme le précisent les chercheurs de Google Quantum AI, une correction d'erreurs plus avancée sera probablement nécessaire pour que ces machines atteignent leur plein potentiel dans des applications commerciales et industrielles plus larges. La démonstration réalisée par Google avec la puce Sycamore pourrait bien représenter le début d'une nouvelle ère dans le domaine du calcul. L'équipe de Google Quantum AI voit déjà plus loin. Notre prochain défi est de démontrer une application au-delà du classique qui aura un impact tangible sur le monde réel ont-ils déclaré. Voilà, on va maintenant pouvoir finir l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on aura une sortie mardi 22 octobre avec The Axis Unseen sur PC. Et les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 24 octobre avec Windblown sur PC, Romancing Saga 2 Revenge of the Seven sur PC, PS5 et Nintendo Switch. Et on aura Flint Treasure of Oblivion qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission As and Bubble que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchèfet fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.